Le journal Margot Delpierre, bonjour Margot.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. 6 mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, le conflit entraîne toujours plus de violence en Cisjordanie. Reportage dans le camp de réfugiés de Jenin.
Nous irons également au Rwanda où 30 ans après le génocide des Tutsis est raconté sur scène par une troupe de comédiens. Le Rwanda au cœur aussi du biais politique de Jean Lemarié. Dans un quart d'heure, il reviendra sur les déclarations d'Emmanuel Macron en 2021. Le président avait alors reconnu les responsabilités de Paris.
Les morts maternelles sont rares, mais existent toujours et le suicide en est devenu la première cause. Nous nous pencherons sur cette étude de l'INSERM et de Santé publique France.
Et les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui pour négocier un accord sur la vie au travail. Comment les seniors sont-ils traités dans les entreprises françaises? Les détails dans ce journal.
Les troupes israéliennes se sont retirées du sud de la bande de Gaza hier et notamment de la ville de Khan Younes, a annoncé l'armée israélienne. Mais aux États-Unis, un porte-parole de la Maison-Blanche se montre prudent et estime qu'il ne s'agit probablement que d'une période de repos pour les soldats. Voilà 6 mois que la guerre dure entre Israël et le Hamas palestinien et au-delà du front à Gaza, plus médiatisé, les violences s'intensifient également en Cisjordanie occupée où les habitants vivent dans la peur. Les morts se comptent par centaines, les résidents parlent de punitions collectives, leurs infrastructures sont visées et leur vie quotidienne rendue impossible. À Jenin, le reportage d'Alice Froussard.
Ibrahim slalome entre les rues du camp de réfugiés de Jenin. Partout, les impacts de balles sur les murs, les fenêtres brisées témoignent des combats réguliers avec l'armée israélienne. Parfois, au sol, c'est une canalisation qui a été éventrée ou une rue entière qui n'est plus qu'un tas de gravats.
Cette route-là, ils l'ont déjà détruite avant. Mais à chaque fois qu'on essaye de la réparer, l'armée israélienne la détruit à nouveau.
Ce jeune Palestinien le précise à Jenin, c'est une guerre quotidienne contre tous les habitants. Depuis le 7 octobre, plus de 106 personnes ont été tuées, rien que dans cette ville. À côté d'Ibrahim, son cousin pointe du doigt le cimetière. Certaines tombes semblent encore neuves.
C'est dans cet endroit que sont enterrés la plupart des martyrs. Mais en fait, il n'y avait plus du tout de place dans ce cimetière. Alors un autre a été créé, juste en bas.
Alors, 6 mois après le début de la guerre, 6 mois après des raids intensifiés plus nombreux, c'est un fatalisme qui s'installe. Des familles qui avaient fui le camp reviennent. L'horreur devient presque habituelle.
Si tu essaies de parler avec un enfant, tu crois que tu parles avec un adulte. Mais pourquoi ça ? Parce qu'il n'a pas d'enfance. Elle est prise, elle est volée dans tous les camps de réfugiés.
Mais dans le camp de réfugiés de Jenin, les habitants n'ont qu'une attente, celle d'un cessez-le-feu à Gaza.
Les Arabes israéliens ou palestiniens d'Israël qui soutiennent les Gazaouis n'ont plus voix au chapitre depuis le 7 octobre. Interdiction de manifester ou d'exprimer sur les réseaux sociaux leur solidarité avec Gaza ou leur opposition à cette guerre. Ils sont 2 millions et désormais leurs paroles se libèrent très progressivement depuis quelques semaines. Ils sont de moins en moins considérés comme des ennemis de l'intérieur, Thibault Lefèvre.
Nisrine Mourkous est une militante.
Je ressens de l'empathie. Pourquoi un bébé doit-il être tué juste parce qu'il est palestinien ?
Elle est arabe, elle se présente comme palestinienne de nationalité israélienne et elle dirige un mouvement féministe qui défend l'égalité et exige la fin des combats à Gaza.
On a l'impression de vivre sous régime militaire. Nous n'avons pas le droit d'exprimer nos émotions par rapport à ce qui se passe à Gaza. Les temps sont durs. Sur les réseaux sociaux, ils surveillent ce que nous écrivons. On vit ici. Pourquoi au lendemain du 7 octobre avons-nous commencé à être coupables ?
Katie Barra est-elle juive ? Et comme Nisrine Mourkous, elle milite dans des associations de gauche.
C'est difficile parce que beaucoup d'amis ont été touchés par le massacre du 7 octobre.
Et pourtant, avec son groupe des mères contre la violence, elle aide des Arabes israéliens ou palestiniens d'Israël à organiser des rassemblements.
On ne leur a pas donné une bonne vie en Israël. Nous n'avons jamais trouvé le moyen de vivre ensemble. Ce sont eux qui ont trouvé à chaque fois le moyen de vivre avec nous.
Et le 7 octobre n'a clairement pas favorisé la coexistence. Après le drame, le chef de la police israélienne avait assuré que chaque personne qui exprimerait sa solidarité avec Gaza serait envoyée en bus dans l'enclave.
Thibault Lefebvre. Les commémorations ont commencé hier au Rwanda pour les 30 ans du génocide des Tutsis. 800 000 personnes sont mortes dans des massacres entre avril et juillet 1994. 100 jours dont le souvenir hante encore certains survivants ainsi que leurs enfants. Un sujet dont s'emparent aussi les artistes. Une troupe de jeunes musiciens s'en est inspirée pour une pièce de théâtre avec aussi des danseurs et des comédiens. Le reportage au Rwanda de Paul Lorgerie.
Djihad, Serge, Moshe, Oben, ils ont vécu le génocide à travers le récit de leurs parents, de leurs tantes et de leurs oncles qui ont survécu. Des histoires glaçantes que le groupe d'artistes Génération 25, composé de jeunes de moins de 30 ans, a souhaité mettre en scène dans leur pièce Génération 25, A Letter of Legacy. Della Doubé, 28 ans, est chanteuse au sein du collectif.
Cette pièce de théâtre est un moyen d'utiliser l'art pour mettre en lumière un sujet si sombre. Il s'agit d'une histoire dont il est compliqué de parler, qu'il est difficile de comprendre. Et le rôle de l'artiste est de rendre ces questions digérables.
Comment se situer dans une société meurtrie? Comment avancer et vivre sans pour autant oublier les morts? Des questions qui n'avaient pas été posées, selon Hope Azeda, directrice artistique du centre Mashirika, qui héberge le collectif Génération 25.
L'art est devenu notre moyen de créer un espace sécurisé, un espace de confiance où les gens peuvent découvrir de nouvelles choses. Mais le plus important est d'évoquer la question de comment raconter la vérité, qui est compliquée à saisir, car ma vérité ne sera peut-être pas la vôtre.
Une pièce comme un exutoire pour certains des artistes qu'ils présenteront à l'automne prochain à Paris après s'être recueillis avec leur famille afin de commémorer la mémoire des proches qu'ils ont perdus il y a 30 ans.
Emmanuel Macron était hier représenté à Kigali par son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Mais de cette séquence française, on retiendra surtout le quiproquo de certains services de l'Élysée, à en croire le palais présidentiel. Le chef de l'État a publié hier une vidéo dans laquelle il assume ses déclarations de 2021 sur le Rwanda. Il avait à l'époque dit reconnaître les responsabilités de la France. Une communication de l'Élysée en fin de semaine dernière laissait penser que le président allait faire un pas de plus. Mais il n'en est rien. Emmanuel Macron en déplacement hier en Haute-Savoie pour le 80e anniversaire de la Libération. Le début d'un long programme de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un président féru d'hommage. Depuis le début de son premier mandat en 2017, il en a rendu 27 nationaux. Une inflation mémorielle, explique l'historien politique Jean Garrigue.
On a des présidents qui ont besoin d'incarner par délégation, c'est-à-dire de s'appuyer sur des personnages historiques. Alors pour Macron, ça a été De Gaulle, ça a été Clémenceau, ça a été Pompidou, ça a été les Manouchian et les 23, ça a été Josephine Baker, etc. Des personnages historiques ou des figures même culturelles, Belmondo, Jean d'Ormesson et d'autres, pour s'identifier à ces figures et pour identifier ces figures à ce qu'est aujourd'hui son idée de l'unité nationale. Essayer de rassembler les Français autour de ces figures parce que lui n'est pas capable de les rassembler autour de la figure présidentielle. Et ça, c'est un problème, me semble-t-il, qui ne sera pas propre à Emmanuel Macron, qu'on va retrouver chez tous les présidents, tant que le système sera ce qu'il est, tant qu'on aura cette fonction présidentielle qui fait du président de la République une sorte de chef de la majorité, plutôt qu'un chef de la nation, en fait.
L'historien politique Jean Garrigue, des propos recueillis par Estelle Caméraire. Prochain hommage national lundi 15 avril pour mettre à l'honneur l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, morte la semaine dernière.
8h09, suite du journal Margot Delpierre, le suicide devient la première cause de mortalité maternelle, selon une étude de l'INSERM publiée il y a quelques jours.
Oui, entre 2016 et 2018, près de 300 suicides ont été enregistrés entre la conception et jusqu'à un an après la naissance, soit une mort maternelle tous les 4 jours. Avant de passer à l'acte, 30% des Françaises sombrent dans une dépression postpartum, témoignage recueilli par Talita Thierro.
Après ses deux grossesses, Célina Butin a vécu une dépression postpartum. Rien que d'y repenser, les larmes lui montent aux yeux.
J'ai un de mes fils qui hurle à n'en plus finir. Vraiment, je suis incapable de m'en occuper là. J'étais dans un tel épuisement que je me disais, si j'allais sonner aux urgences psychiatriques, est-ce qu'on me garderait? Et du coup, est-ce que je pourrais être tranquille pendant quelques heures?
Son mari, comme 18% des hommes, a aussi fait une dépression postpartum. Cela reste encore un tabou dans les familles, mais aussi chez les professionnels.
Si le bébé est en bonne santé, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on peut être malheureux parce que l'arrivée d'un enfant dans le monde, c'est un cadeau du ciel, c'est la plus belle chose sur Terre. Et en fait, on peut être à la fois très heureuse d'avoir un enfant et complètement déprimée.
3% des femmes vont même jusqu'au suicide. Une amie de Clémence Huignard est passée à l'acte après l'accouchement de son troisième enfant.
C'est un énorme choc en fait. Et ma maman qui me disait, mais tu te rends compte Clémence à quel point elle devait être malheureuse pour en arriver là? Et ouais, non, je me rends pas compte. Pour moi, c'est choc, sidération, tristesse.
Célina et Clémence ont donc créé un jeu de cartes, le Yaka Faucon. Ils préparent les parents aux commentaires déplacés.
Tout le monde s'auto-proclame expert parentalité. J'ai vu ce que c'était que de changer une couche, donc je sais. Les beaux-parents qui disent ah, « mais je fais pas des enfants pour les faire garder par quelqu'un d'autre ». Et du coup, le jeu lié à Cafaucon, c'est vraiment un moment où, en fait, on va s'entraîner à faire des punchlines, on tire une carte, on dit « qu'est-ce que tu réponds si un tel te dit ça ?» Et effectivement, souvent, la partie dérive vers autre chose.
Parce que l'objectif du jeu est d'améliorer la santé mentale des jeunes parents.
Le fait de jouer, du coup, ensemble, et l'humour qui dédramatise, ça va permettre de détecter des situations de mal-être parental.
Selon l'INSERM, plus de la moitié des décès maternels sont évitables.
Talita Thierro. Dernière journée de négociation entre patronat et syndicats pour espérer aboutir à un accord sur la vie au travail et l'emploi des seniors. Parmi les objectifs, trouver des solutions pour garder plus longtemps les salariés en activité, la réforme des retraites allongeant la durée de travail de 2 ans. Même si la situation s'est améliorée, la France a toujours un taux d'emploi des seniors inférieur à l'Union européenne. 58% des 55-64 ans contre 64% en moyenne dans l'UE. D'après une étude de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, l'immense majorité de ces cadres de plus de 55 ans sont satisfaits de leur vie au travail, voire souhaitent encore progresser, Marie Viennot.
Entre 55 et 59 ans, 88% des cadres sont encore en emploi contre 75% pour la population générale et entre 60 et 64 ans, ils sont 44% contre 29% pour les non-cadres. 55 ans, c'est encore loin de la retraite, alors comment abordent-ils les années qui leur restent? Pour 15% des cadres interrogés, c'est l'anxiété qui domine, la perte de sens, le stress. Pour 15% encore, le désengagement, l'impatience de prendre sa retraite. Mais les 2/3 restants se divisent entre l'envie de maintenir le statu quo sereinement et pour 1/3, un besoin de se voir au contraire confier de nouvelles missions et de progresser. Ce qui n'est pas toujours bien perçu côté entreprise, regrette Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC.
Nous avons une population qualifiée, très massivement motivée pour continuer et pourtant, ce que montre aussi notre enquête, c'est que les signes, par exemple, de reconnaissance qui leur sont adressés à travers des augmentations salariales, comme pour les autres cadres, ou à travers des formations, l'accès aux formations professionnelles, ou à travers des opportunités d'évolution professionnelle, parce que quand on a 55 ans, on a encore 1/4 de sa vie professionnelle devant soi, on a pratiquement 10 d'années. Et pourtant, les opportunités diminuent.
Alors que les partenaires sociaux discutent de nouveaux dispositifs pour encourager l'emploi des seniors, notamment un CDI ad hoc ou un compte épargne universel, l'APEC considère que la première clé pour l'emploi des seniors, c'est un changement de culture dans les entreprises.
Des millions de curieux du Mexique au Canada en passant par les États-Unis pourront observer l'éclipse totale du soleil aujourd'hui. Elle sera visible en totalité sur une diagonale qui va du Texas dans le sud du pays jusqu'au Maine dans le nord-est. 32 millions d'Américains vont se retrouver dans l'obscurité complète. La dernière fois c'était en 2017 et la prochaine en Amérique est prévue en 2044. À Washington, Sébastien Paour.
Lynn Chambers est chercheuse en sciences atmosphériques au centre de la NASA de Langley, en Virginie. Elle se félicite que le phénomène soit visible sur une aussi grande partie du pays.
Ça va commencer au Texas et puis en diagonale jusqu'à Maine, donc une très grande partie des États-Unis. Dallas, Indianapolis, Cleveland, Niagara. Et puis un petit village en Maine.
Jusqu'à 4 minutes d'obscurité sur une bande d'environ 180 km de large.
Si on est dans cette bande, on peut voir la lune qui bloque entièrement le soleil et on verra l'atmosphère du soleil.
Si les nuages ne sont pas de la partie, l'éclipse sera visible à 50% à Los Angeles, un peu moins à Miami sur la côte est. Les scientifiques se réjouissent de pouvoir observer une étoile comme le soleil aussi précisément.
On peut étudier l'atmosphère du soleil, ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans des conditions normales parce que le soleil lui-même est tellement brillant qu'on ne voit rien.
1 million de personnes sont attendues aux chutes du Niagara, à la frontière canadienne, encore plus au Texas où la météo prévoit une meilleure visibilité.
Sébastien Paour, Météo France prévoit un temps plutôt sec à l'est du pays, plus agité ailleurs, avec des orages et des vents forts parfois. Le Finistère est placé en vigilance orange vague submersion à partir de cet après-midi. Les températures jusqu'à 13 degrés attendues à Brest, 17 à Lille, 18 à Paris, 24 à Lyon, 25 à Strasbourg, 27 degrés à Marseille.